Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Dieu.
Bonjour, ici Erdiwa. C'est l'heure de l'interview. En introduction, nous venons d'écouter une composition proposée par Michel Gentil et Samuel Catiot. Bonjour.
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 Vous êtes tous les deux ici pour nous parler de La Note Invisible, un récital qui associe des interprétations d'un répertoire occidental, voire oriental également, de pays divers et de cultures également, j'imagine. Et vous êtes en tournée sur le Diwa et même un peu au-delà, le Vercors, la Vallée de Caen, et pour d'autres dates également que vous rappellerez. Et donc, cette introduction d'émission, vous nous avez proposé quelle écoute ?
Alors, c'est un titre qui s'intitule « Cathédrale ». Il y a une petite histoire, Michel peut peut-être nous expliquer ce morceau, puis j'expliquerai le texte.
Bon, alors je me lance. Quand j'avais 17 ans, je ramassais des tomates en Suisse, parce que ça gagnait 3 fois plus d'argent que quand on les ramassait en France. Et donc, puis je voulais faire un voyage aux États-Unis, donc je voulais financer ça. Et donc j'étais dans un champ de tomates, et dans ce champ était jouxtait un aérodrome militaire suisse. dans le Valais. Hein. Et dans cet aérodrome, de cet aérodrome décollaient des Mirage 3 à l'époque. Et quand ils avaient la post-combustion, on pouvait plus, on était carrément figé, ça nous bloquait, on ne pouvait plus bouger tellement c'était puissant. Mais donc c'était quand même un peu une difficulté par moment. Heureusement, il y avait derrière, de la montagne qui venait derrière, un carillon qui tintinabulait, qui venait d'un monastère. Et c'est ce carillon que j'ai essayé d'imiter avec ma guitare à 12 cordes. Voilà. Donc l'idée du morceau est venue de ce carillon suisse.
Et moi, Michel m'a proposé donc cette composition qui s'intitule Cathédrale. Et je trouvais qu'il y avait un texte qui allait bien avec cette composition. C'est un texte d'un troubadour, ou plutôt d'une trobéris, donc une femme troubadour. On n'a pas son nom, on n'a qu'une partie du texte, on n'a qu'un fragment du texte. C'est pour ça que le morceau aussi est un peu en suspension, comme ça. Et c'est la magie parfois des répétitions ensemble. Le texte a très bien fonctionné en fait avec cette mélodie. Il parle d'un palais, il parle de garder la terre. On est en lien finalement avec la mélodie de Michel. Et c'est un texte que j'aime beaucoup, qui est en occitan. Et voilà comment est né un morceau à Minglon lors de nos répétitions.
Comment a eu lieu cette découverte de cette composition ?
Moi, je, dans mes voyages, je cherche beaucoup dans les fonds anciens des bibliothèques. Et puis, je travaille un peu avec des musicologues aussi qui vont collecter, qui vont chercher tous ces textes qu'on a, qui sont magnifiques, de la poésie médiévale, Renaissance. C'est une période que j'aime beaucoup. Et il y a dans ce répertoire, donc de la note invisible, il y a quelques textes comme ça. Il y a celui-ci, il y en a un aussi de Béatrice Dedi. Il y a des textes de collectage aussi du Trièves et du Diwa, de la Vallée de la Rouanne. Voilà, c'était l'envie d'amener aussi ce répertoire autant ancien qu'un répertoire populaire qui était encore chanté il y a une vingtaine d'années dans nos vallées et qui est encore chanté par quelques musiciens aujourd'hui.
Michel Gentil, pareil, un intérêt pour les musiques anciennes et peut-être aussi mêler celle de la modernité.
Absolument. Moi, j'ai toujours été influencé, très influencé dès le départ par des musiques traditionnelles, par la musique traditionnelle au sens large du terme. Et quand je suis allé en Mongolie, j'ai écouté du chant diphonique. Quand je suis allé en Afrique, j'entendais des chants traditionnels. Tout ça, moi, je suis très influençable. J'aspire des influences. Et ça ressort dans mes compositions sans que j'y réfléchisse, sans que j'y pense. En fait, quand on joue et qu'on compose, il y a des gens qui disent rien n'est inventable. Moi, je crois que tout est inventable. Mais par contre, on est toujours influencé par les gens qui nous ont précédés. Donc les musiques traditionnelles, c'est vraiment la grande base pour moi de musicale, celle qui m'a peut-être le plus influencé. À part le côté un peu folk américain que j'ai découvert dans les années 70, quand je suis allé là-bas pendant un an. Mais l'un et l'autre ne sont pas contradictoires.
Une question que je me pose aussi par rapport à ces musiques anciennes. On nous présente une certaine manière de jeu aujourd'hui qui semble plutôt calme, très, très précise. Et est-ce que, c'est une question naïve, est-ce qu'on aurait pu imaginer aussi des musiciens un peu tendance punk à l'époque ?
Je crois qu'au niveau de l'interprétation, effectivement... Chaque époque a son interprétation. Si on écoute, par exemple, la musique baroque enregistrée il y a une trentaine d'années, maintenant, elle n'est plus jouée du tout de la même manière. Ouais. Donc, dire qu'on va restituer la musique de l'époque, c'est très compliqué, parce que déjà, le son de l'époque n'existe plus. On est dans des sons aujourd'hui qui sont beaucoup plus métalliques. On est dans des sons un peu plus industriels, même dans ce qu'on entend au quotidien. Donc, l'oreille est habituée à d'autres types de sons.
On est aussi dans une musique non tempérée autrefois, alors qu'on a tempéré la musique, ce qui change complètement les ambiances qui sont créées. Si Beethoven, même Beethoven, hein, c'était déjà tempéré, mais c'était pas tempéré tout à fait pareil, s'il entendait comment on joue ces musiques aujourd'hui, il se retournerait dans sa tombe. Ça n'a rien à voir. L'accordage est totalement différent, ça change beaucoup de choses.
Et c'est là où, dans ce répertoire, on ne cherche pas à faire une restitution de musique ancienne. C'est vraiment... moi, je vais puiser dans un patrimoine culturel et on se l'approprie. Et effectivement, on en fait une nouvelle proposition en tant que musicien du 21e siècle.
On parlait de cette manière de jeu, mais... Par exemple, ces chants étaient-ils interprétés sur des cérémonies ou plutôt un contexte festif ?
Oui, il pouvait y avoir des contextes festifs. Là, le titre qu'on a joué, effectivement, Cathédrale, on est dans quelque chose d'assez méditatif. Hein, autour de... Il y en a d'autres dans le répertoire qui sont beaucoup plus rythmés. Si on reste sur cette période du Moyen-Âge, on avait aussi les chansons à boire, on avait des choses qui étaient extrêmement festives. Il y a aussi des messes qui étaient presque païennes. Hein. On a la messe des fous, la messe de l'âne qui était jouée au XIIIe siècle dans les cathédrales. On est plus dans un carnaval que dans un office religieux. Hein. Donc il faut imaginer que... Effectivement, on n'avait peut-être pas le côté punk, mais il y avait des choses très très vivantes dans la musique.
Il y a donc ce répertoire que vous proposerez. Vous citez des chants français, anglais, irlandais, italiens, même d'Amérique. Pareil, comment se procède cette recherche de ces chants anciens? Est-ce qu'ils sont venus à vous ou alors vous êtes allé aussi à cette découverte?
C'est vrai que le jeu de guitare de Michel m'a donné l'envie d'aller chercher notamment ces textes de chants aux Amériques. Parce que ce sont aussi des textes anciens, en fait, finalement, qui viennent d'Europe, hein, qui ont migré vers le Nouveau Monde. Et donc, pour collecter ça, c'est pareil, il y a de la tradition orale, hein, donc il y a des enregistrements qu'on peut trouver. Et puis, quand on commence à chercher un peu, on trouve aussi, par le biais d'autres musiciens, on va trouver des textes qui sont d'ailleurs... Il y a beaucoup de versions différentes, parce que comme on est dans le chant populaire, les musiciens s'amusent aussi, les chanteurs s'amusent à s'approprier, à changer un peu l'histoire. Donc on peut avoir des versions différentes. Et il y a des joutes aussi qui se font, ou même en live, on va proposer aux musiciens autre chose que ce qu'on avait prévu. Donc c'est le jeu aussi, c'est ça aussi. Nous, on s'amuse beaucoup sur scène avec ça, avec Michel. Et c'est ce qu'on transmet, je pense, au public.
Et pour Michel, au niveau des mélodies, c'est...
J'ai aucune démarche, je ne me pose aucune question.
Oui,
suis influencé par tout ce que j'ai entendu. Et ça sort sans que je m'en rende compte. En gros, c'est ça. Alors évidemment, il y a des choses qui m'influencent plus que d'autres. Hein, donc l'Inde, les États-Unis, tout ça. Et la France, évidemment. Mais au moment où je compose, je suis dedans, je ne me rends pas compte de ce que je fais. J'ai un morceau fétiche qui s'appelle Flamenco Indien, que je joue d'ailleurs dans notre concert, que je joue depuis des années. Quand je l'ai joué, quand je l'ai trouvé, c'est un copain qui m'a dit « Mais dis donc, on dirait du flamenco ». Puis après, simplement, je me suis dit « Ah oui, en effet, j'ai joué avec un guitariste flamenco pendant un an, il y a deux ans, qui m'a beaucoup influencé. » Donc c'est ça. Il n'y a aucune démarche, c'est vraiment juste l'inspiration. C'est seulement l'inspiration. Et l'inspiration, elle vient de tout ce qui m'a influencé, quoi. Inspiré au sens... inspirer le monde autant qu'on peut, et puis de ça, selon nos caractères, nos capacités, en fonction de nos capacités, on va retenir certaines choses plus que d'autres, on fait comme une sorte de filtre, mais d'ailleurs, d'une manière générale, je pense que les artistes sont des filtres du monde, sont des témoins du monde existant, avec chacun leurs caractéristiques, leurs différences, etc., bien sûr. Mais donc, pas de questions, aucune question, aucune démarche, hein, surtout pas de démarche. Parce que avoir une démarche, c'est tout casser, finalement. On n'est plus dans le... Quand on a quelque chose à dire, il faut que ça sorte. Voilà, c'est ça l'artiste, il a quelque chose à dire, il faut que ça sorte. C'est plus fort que lui, il ne le fait pas exprès. S'il commence à le faire exprès, c'est mort, il n'y a plus rien qui sort. S'il commence à réfléchir, à trop calculer, c'est fini. Donc voilà, ma réponse, c'est vraiment ça, c'est... Je suis influencé par tout ce que j'entends, certaines choses plus que d'autres. Et puis quand je joue, ça ressort, sans que je m'en rende compte la plupart du temps.
Mais c'est vrai que, oui, la composition et en tant qu'artiste, on est des éponges, en fait.
C'est ça.
C'est vrai que les voyages, c'est là où ça peut être intéressant. Les voyages qu'on a fait, Michel comme moi, dans différents pays, on entend des sonorités différentes. Il y a notre bibliothèque sonore qui s'étoffe. Et ensuite, on ne sait pas pourquoi, à un moment, ça ressort. C'est très étrange. Quand on a commencé à répéter avec Michel, je commençais à réfléchir effectivement à des textes, à d'autres textes. Et puis, dès l'instant qu'on a joué, ce n'est pas du tout ça qui est venu. C'est d'autres textes qui sont venus à mon souvenir, en fonction de la mélodie. Donc, effectivement, à un moment, on ne pense plus, on laisse faire les choses. Donc, il y a peut-être aussi des moments un peu de grâce, comme ça, où... effectivement, on est en dehors de nos soucis du quotidien et il y a quelque chose qui se passe sur une fraction de seconde qui va faire qu'un morceau émerge, une composition émerge et se construit. Et je pense que c'est ça qu'on aime aussi, qu'on va chercher, du coup. C'est Absolument. Pour ça qu'on aime et qu'on y retourne. Mm-hmm. Parce que sinon, on fait des métiers qui sont quand même assez physiques, de par les tournées, de par... Mais je pense qu'on y retourne parce qu'il y a justement cette magie un peu qu'on peut créer. Je pense comme Michel, c'est pas le fait d'être malheureux, c'est pas le fait d'être torturé, c'est effectivement plus les choses qui marquent notre existence. Et qu'on a envie de retranscrire ou peut-être de transformer aussi, de proposer différemment. Et je pense que le public, c'est pareil, il est réceptif à ça. L'heure écart ou l'heure et demie qu'on propose, c'est de partir justement dans ces compositions et un peu dans ce mystère de la création, hein, finalement.
Avec, dans notre concert... un aspect avec un côté improvisatif non négligeable quand même, et qui se développe et qui est peut-être amené à se développer encore.
C'est, je pense, une des parts de ce répertoire, c'est de laisser place à l'improvisation, parce qu'il y a le lieu aussi qui est différent à chaque fois. On joue dans des temples, dans des églises, on joue en extérieur. La sonorité n'est pas la même, le public n'est pas le même.
Les ambiances ne sont pas les mêmes.
Quand on vient, on n'est pas non plus toujours dans le même état, dans le même humeur. Donc, c'est aussi créer un répertoire qui nous permet cette liberté de le transformer ou de le modifier quand ça nous chante.
Exactement.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5.
101.7.
FM.
Je revenais sans être trop préparé. Il existe aussi quand même des partitions qui vous guident dans la mélodie. Après, votre compétence, c'est peut-être de la réinterpréter, de la réarranger aussi.
Alors là, la particularité de ce répertoire, c'est que c'est de la musique non écrite. Il y a des textes, mais il n'y a pas de partition. Donc on travaille effectivement sur des bases d'improvisation. Ensuite, on structure la musique. Mais c'est de l'écoute, c'est du travail d'oreille. Et après, moi, comme je dis, le texte, c'est aussi un travail d'imprégnation. Petit à petit, on fait corps avec le texte. Et à un moment, on l'a complètement. Et du coup, on peut s'en libérer aussi. Et voilà, pour les notes, c'est pareil. C'est pour ça que la note invisible, je pense qu'il y a cette recherche aussi de quelque chose qui n'est pas visible, qui n'est pas écrit, mais qui est bien présent dans les oreilles.
L'improvisation, c'est y a beaucoup de gens j'ai entendu pendant des années des gens dire, oui, ils improvisent, oui, c'est n'importe quoi, ils jouent ce qui leur passe par la tête. Et oui, mais c'est le travail d'une vie, c'est le travail d'une vie. Il s'agit d'être ici et maintenant. Quand je suis interprète, j'ai un travail d'acteur. J'essaye de me rappeler qu'est-ce que voulait faire le compositeur, dans quel état il était, quel état il veut restituer. Et j'essaye de m'y coller au mieux. Quand j'improvise, pour moi, c'est stupide de parler de grande musique, mais enfin bon, s'il devait y en avoir une, ce ne serait pas la musique symphonique, ce serait l'improvisation. Parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile en réalité. Sans partition, il faut être là, ici et maintenant, comme disaient les hippies, mais ils n'avaient pas tort de ce point de vue-là, ici et maintenant, c'est-à-dire être complètement à l'écoute de la situation. Comme disait Samuel tout à l'heure, on joue dans une église, on joue en plein air, la situation n'est pas la même, le public n'est pas le même. Il s'agit de s'adapter au moment, de coller le plus possible, d'être le plus normal, le plus naturel, le plus nous-mêmes possible. Et lorsqu'on est le mieux nous-mêmes, alors on ressemble le mieux au monde et tout le monde nous comprend mieux. J'ai une petite anecdote. J'avais travaillé avec un grand musicien turc qui s'appelait Ali Dede Altintash, grand maître de l'improvisation justement, qui m'a beaucoup aidé à structurer mes improvisations. Et premier concert, d'ailleurs c'était dans la Drôme, on habitait à Paris tous les deux, c'est dans la Drôme, en plein air, il y a pas mal de monde quand même, il y avait un petit millier de personnes. Et moi j'avais travaillé très sérieusement mon morceau en tonalité de Do. Lui devait commencer par une improvisation sur son naï turc, le naï. Et au moment où il monte sa flûte près de ses lèvres, tout le monde était suspendu à ses lèvres. À ce moment-là, il y a une cloche qui sonne en ré. Et donc, il joue ré. Et donc, moi, il fallait que je joue tout le morceau que j'avais bien préparé sur ma guitare à 12 cordes pour que ça sonne joliment en do, etc. Tous ces endroits-là, il fallait que je revoie direct, tout de suite. Donc, il s'agit immédiatement, c'est le souffle du moment présent qui, là, m'a interpellé tout de suite. Et Alors évidemment, ça fait très peur parce qu'on a peur de se tromper, de que ce soit une catastrophe. Ça n'a pas été une catastrophe. Ce n'était pas terrible, hein, de mon point de vue, pour ce que j'ai joué. Mais j'ai quand même sauvé les meubles. Et avec le temps, après, on s'habitue à ça. On a un peu moins peur. Et on peut coller de plus en plus à la situation présente. Parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant. Beaucoup plus puissant qu'une simple interprétation.
Il y a un proverbe indien qui dit « Soyez toujours prêt à être surpris ». Je pense que voilà, l'improvisation, c'est ça. Et je pense que ça peut aussi être utilisé pour le quotidien et la vie tout entière.
Ben oui. En fait, on improvise notre vie aussi. Hein.
Il y a un troisième partenaire hein, dans ce que vous proposez, c'est le lieu aussi où vous jouez. Et pour cela, vous devez peut-être, en amont de chaque concert, l'apprivoiser ou vous apprivoiser aussi à cet endroit.
Et oui, parce que le lieu va répondre différemment. Il y a des... bon, quand on joue dans des lieux du patrimoine, alors des églises, des temples, il y a l'aspect de la pierre qui joue. Ça peut être la pierre, ça peut être les charpentes en bois. Donc tout ça, ça va jouer au niveau de l'acoustique du lieu. Et les notes vont être envoyées d'une certaine façon. Certaines notes vont ressortir plus que d'autres. Il y a des harmoniques aussi qui vont se créer si on est dans un lieu avec des voûtes. Donc tout ça, ça participe, effectivement, c'est le troisième musicien du concert. Donc il y a des musiciens qui sont pas férus d'acoustique, qui ont l'habitude de jouer dans des salles de concert très formatées, on va dire, au niveau du son. Moi, j'ai toujours aimé, même jeune, ça a été vraiment une attirance pour ces lieux-là, justement, qui nous proposent autre chose. Ce qui fait que c'est intéressant pour nous, parce que ce répertoire-là, il ne va jamais être le même. En fonction du lieu, on a un troisième musicien qui va nous guider plus ou moins ou nous emmener sur des terrains qu'on n'avait pas prévus. Donc si la réverbe est un peu longue ou si le son, au contraire, est plutôt sec, et là, on doit être très, très précis, on va faire quelque chose de plus intime. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on découvre à chaque lieu. On y répète un peu hein, avant le concert.
On aime bien venir bien à l'avance pour s'imprégner aussi de l'ambiance du lieu. Ça compte.
Et après, la surprise, c'est qu'un lieu comme ça, vide, dans lequel on répète, le son sera plus le même une fois qu'il est plein avec le public. Donc, on découvre véritablement le son du lieu tel qu'il a été pensé lorsqu'effectivement, il est plein avec le public. Donc, il y a toujours une adaptation à avoir par rapport au lieu.
Samuel Catiot, on peut parler aussi de votre travail. Vous êtes chanteur lyrique dans des lieux qui s'y prêtent, hein, que ce soit des temples ou alors des abeilles. Pour cela, c'est aussi... comment vous procédez justement à ce travail? Est-ce que vous répétez dans ces lieux et vous êtes aussi à la recherche de ces endroits propices pour vous entraîner?
Alors... moi, je compare... j'habite dans le Diwa et c'est pas par hasard non plus, parce qu'en fait, je compose beaucoup aussi dans la nature, quand je vais marcher, en montagne. On a des sons qui sont différents selon les saisons, selon les lieux aussi, avec le relief, avec la pierre qui peut être présente, qui fait un écho particulier. Et si on regarde une cathédrale, on n'est pas si loin. Quand on est dans une forêt avec des grandes futaies, l'homme n'a fait que reproduire ce que la nature nous propose. Et du coup, le lieu, effectivement, m'attire pour ce qu'il va, comme je disais, proposer. Et il m'est arrivé plusieurs fois, souvent, de composer pour le lieu, d'avoir prévu quelque chose et puis finalement de me retrouver dans le lieu, de me dire « mais non, en fait, c'est pas ça ». Parce que le lieu, il est accordé, effectivement, sur une certaine note, par exemple. Et donc pour moi c'est vraiment un jeu d'aller rencontrer ces instruments qui sont vraiment des instruments de musique. On en a plus effectivement sur du bâti ancien que sur du bâti récent, mais il y a des salles de concert qui sont intéressantes aussi hein, lorsqu'il y a des architectes qui ont travaillé avec des acousticiens. Et c'est un véritable instrument de musique. Donc pour moi, quand je suis seul, a cappella, quand je le propose dans certains concerts, en fait, on est en duo également parce que le lieu répond et le lieu va jouer avec ce que je propose. Donc ça, c'est vraiment un travail que je fais. Si les gens ont l'occasion d'aller se promener du côté du Berry, de Bourges, et au sud de Bourges, à l'abbaye de Noirlac, j'ai participé à une création. Il y a d'autres personnes du Diwa d'ailleurs qui ont participé étrangement à cette création. C'est des visites sonores qui se font dans l'abbaye de Noirlac. Et ce sont des morceaux très courts qui sont composés pour le lieu, des genres de haïku sonores, hein, des petites capsules sonores. Et après, il y a un système qui renvoie, qui effectivement propose. Il y a à peu près 80 capsules sonores qui ont été enregistrées. Et le public peut visiter le lieu. Le son se déclenche. On a une visite comme ça, sonore du lieu. Avec, donc, moi, j'ai fait au chant. Il y avait Michel Godard aussi, avec qui je travaille, qui joue au serpent. Il y a du violoncelle, il y a du chant diphonique aussi, avec une chanteuse qui fait des chants incroyables. Voilà, donc c'est, là, on a véritablement un travail. On a un exemple de travail avec le lieu, où le lieu restitue la musique qui a été composée pour lui.
Samuel Catio, on pourra vous entendre prochainement, justement, sur le Diwa, dans les alentours.
Alors, j'ai fait l'expérience récemment à la chapelle de Saint-Andéol, où effectivement, j'ai joué a cappella. Et je vais rejouer cette expérience-là à l'église de Miscon le 13 septembre. Voilà, où, pareil, j'invite les gens à participer à ce moment où on est dans une ambiance purement vocale.
Michel Gentil, pareil pour vous. Vous êtes une figure très connue sur le territoire. Vous présentez, c'est un peu superflu, mais qu'est-ce qui vous anime ? C'est aussi de partager avec un public.
Évidemment. J'ai beaucoup joué seul. C'était le fil de vie de ma carrière, ça. J'ai joué aussi beaucoup avec en duo, en trio, avec des amis. Mais le fil, ça a été jouer seul. Quand on joue avec des amis, c'est cette amitié qui se dégage. Et comme dit Samuel, on est complètement dans un lieu. Donc le lieu va renvoyer aussi un son. Donc on joue avec ce troisième musicien. Si on était que deux, là, on serait trois avec. Mais lorsqu'on joue seul, on joue pour l'univers. On m'avait dit, quand j'étais jeune, « Ouais, mais tu joues seul, t'es un égoïste. » Mais non, c'est le contraire. Enfin, c'est ni le contraire, ni autre chose, d'ailleurs. Quand on joue seul, on joue pour ce qui est autour. Et aussi, on joue parce qu'on a besoin de le faire. C'est un peu égoïste, quand même, de ce point de vue-là. Il faut que ça sorte, il faut que quelque chose sorte. Mais, je m'adresse à tous les publics. De ce point de vue-là, la question se pose pas plus que ça, quoi. Ça, je joue pour ce qui est autour. Je joue pour moi et pour ce qui est autour. Et moi, je suis dans le autour aussi.
Je rappelle peut-être aussi d'autres dates pour vous, Michel, le coin.
À part celle qu'on va faire ensemble avec Samuel, il y en a une que je voudrais vraiment annoncer. C'est en duo avec le violoniste Alexis Haigui, que les Diwas connaissent maintenant, je pense, parce qu'il est quand même installé depuis un moment aussi. Et c'est un très grand violoniste, un virtuose du violon, qui se pose sur mes compositions et qui virevolte. On va jouer à l'abbaye de Valcroissant le 15 septembre prochain. Donc voilà, ceux qui je vous convie à venir. Petite parenthèse, les cisterciens, l'abbaye de Valcroissant est une abbaye cistercienne. Les cisterciens sont peut-être parmi les ceux qui ont le plus travaillé le domaine de l'acoustique quand on joue dans l'abbaye du Thoronet. Alors, l'abbaye de Valcroissant, malheureusement, n'est pas conservée entièrement et on ne peut pas bénéficier à ce point-là. On a une bonne sonorité, mais pas aussi bonne que dans d'autres abbayes comme celle du Thoronet, considérée par un de mes maîtres qui s'appelle Yegor Reznikov comme la huitième merveille du monde pour cette capacité de résonance. En fait, c'est un instrument. Ils fabriquent des cathédrales, mais ce sont des instruments, ce sont des instruments de musique avant tout, quoi.
Des caisses de résonance.
Et même des... Oui, c'est des caisses de résonance, presque des musiciens. Quand on fait un do, quand on chante un do à l'abbaye du Thoronet, on entend sol. Et parfaitement, si on est parfaitement accordé et qu'on joue un sol, on va faire résonner. La résonance va durer 10 fois plus longtemps que si on joue le sol un tout petit peu faux. Donc c'est un prof de chant aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce sont des endroits, les cisterciens ont maîtrisé ces techniques-là beaucoup mieux que nous aujourd'hui, d'ailleurs.
Et puis, tous deux, pour vous découvrir, ça sera à partir du 19 août également. Vous avez commencé une tournée déjà. Et la prochaine, donc, ce sera à Lèche en Diwa, au temple, à 18h. S'en suivront d'autres aussi. On peut peut-être les rappeler.
Oui, alors il y aura donc le 19 août à Lèche en Diwa. Et si le public le souhaite ensuite, on pourra se retrouver au bistrot de pays de Lèche. On aime beaucoup aussi partager, donc c'est pour ça que le concert est à 18h et que le bistrot prévoit un menu, une formule pour l'occasion de ce concert.
Par contre, vous pensez à réserver si vous voulez manger.
Oui, tout à fait. Et puis ensuite, on va jouer effectivement sur le plateau du Vercors le 30 août à la Grange Ouverte aussi, hein, qui est un lieu qui est assez étonnant aussi pour les gens qui ne le connaissent pas. C'est encore un autre type de son et une autre expérience. Mmh. Et on va jouer ensuite à Saillant également. Mmh. Donc ça, ce sera au mois de septembre, le 28 septembre au temple de Saillant. Et puis il y a d'autres dates aussi sur le site, sur nos sites respectifs, hein, pour aller voir l'ensemble des dates de la tournée de La Note Invisible. On sera en Ardèche aussi également fin août, début septembre. Voilà, pour découvrir ou redécouvrir ce répertoire, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont déjà venus plusieurs fois là au concert et qui viennent nous écouter dans des lieux différents.
Et Saint-Étienne-en-Quin aussi, le 20 octobre à la Bergerie, ça sera. La note invisible, il y a une question, c'est celle de la part des anges. Qu'est-ce que vous indiquez pour ça?
Ça, c'est alors, la question.
C'est un petit clin d'œil aussi à la distillerie, effectivement, puisque la part des anges, effectivement, c'est ce qui s'évapore, c'est ce qu'on laisse, hein, qui va faire aussi le nectar et qui va faire la qualité du breuvage. Donc voilà, c'est pareil. Il y a des notes qu'on joue, il y a des notes qu'on joue pas, il y a des notes qu'on n'entend pas. Mais si on joue pas l'ensemble du répertoire, l'ensemble de ces notes-là, est-ce que le son est pareil? Voilà, c'est une question d'écoute et ça reste en point d'interrogation.
Vous parliez tout à l'heure de l'éponge comme ce que vous êtes par rapport à ces sonorités, ces influences. Une éponge qu'on essore légèrement avant de pouvoir l'utiliser.
C'est bien d'être vide pour pouvoir effectivement ensuite venir y mettre un certain nombre d'ingrédients dans cette musique. Donc oui, on est une éponge et à un moment, il y a besoin aussi de s'essorer, oui, si on veut. Ça, je parlais des moments où je vais marcher, par exemple, en forêt. C'est vraiment les moments où on peut aussi lâcher et puis permettre de laisser venir d'autres inspirations. Ouais.
Il y a un équilibre à trouver quand on est dans ce métier artistique, dans tous les métiers artistiques, je pense d'ailleurs, entre les moments d'inspiration et les moments, j'allais dire, d'expiration. Il y a des moments où on a des choses intéressantes à dire, à exprimer auprès d'un certain nombre de gens. Et puis, dans notre vie, il y a des moments où ce n'est pas du tout le cas. On a au contraire envie d'être rechargé, peut-être par ces gens ou par d'autres. Donc, on n'est pas toujours en situation de créativité maximale, de capacité d'avoir quelque chose d'intéressant à exprimer pour tout le monde. Ça, ce n'est pas vrai, j'y crois pas. Il y a des moments où on est plus, puis des moments où on est moins. Et quand on est moins, il faut savoir gérer un peu ça. C'est une des difficultés de ce métier, je crois. C'est-à-dire savoir s'arrêter. Au moment où on n'a rien d'intéressant à dire, parce que ce moment-là, on gâche tout, sinon. Et ce n'est pas très respectueux pour les gens. Donc, il faut gérer un peu ce côté-là. Il y a quelque chose à travailler, à apprendre. Et ça s'apprend et ça se fait bien. Voilà.
Et quand on a commencé cette tournée, là, début juin, c'est vrai que Michel et moi, on n'avait pas beaucoup joué les mois précédents. On avait beaucoup travaillé ensemble, on avait beaucoup répété, mais on n'avait pas fait de concert. C'était assez intéressant aussi de vivre cette expérience, de revenir sur scène après un laps de temps plus intérieur, finalement, dans le travail. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi, c'est l'arrêt et la préparation du mouvement. Et je pense que la création, elle a besoin de ça. Elle a besoin de ce temps qu'on n'a plus à notre époque ou qu'on ne se donne plus. Hein. On entend combien de fois, on entend les gens dire « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». À un moment, le temps, on le prend. Et le temps, c'est pas du luxe, contrairement à ce qu'on dit. Le temps, on a la capacité de le prendre, de s'arrêter pour ensuite se mettre en mouvement et proposer ce qu'on a à proposer et à exprimer.
De la même façon, quelqu'un est au travail et que il est en situation de burn-out, il est inefficace. C'est juste pas la peine. Il vaut mieux qu'il s'arrête. Il va gagner du temps s'il s'arrête. Dans un enregistrement de studio, moi j'ai à un moment donné enregistré des amis dans mon studio à la maison. Au bout de 2 heures, l'oreille elle est inefficace. On n'entend pas. On n'entend plus au bout de 2 heures. Donc il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter un quart d'heure. Mais ce quart d'heure, il nous fait gagner du temps. Et j'ai vu des gens à Paris, dans des studios, qui n'avaient pas cette possibilité et qui perdaient plusieurs heures pour ne pas s'être arrêtés pendant un quart d'heure. Donc là, il y a quand même quelque chose que notre société un petit peu doit réfléchir, je pense.
Ouais, comme toute création, nécessité de prendre un peu de recul, parfois.
Oui.
Eh bien, je vous remercie Samuel Catiot et Michel Gentil d'être venus sur Air du Bois pour nous parler donc de cette tournée de La Note Invisible. Il existe une page dédiée à cette proposition ?
Alors, pour le moment, non. C'est en cours puisque on avance dans ce projet comme on l'a fait pour la composition. Donc, c'est vrai que on a un album aussi en prévision. Oui. On ne s'est pas encore donné de date par rapport à ça. On a envie de jouer. De bien jouer le répertoire justement pour se l'approprier,
le roder,
oui. Faire vivre. Et il y a nos sites respectifs en fait, hein, de Michel Gentil et Samuel Catiot. Et puis il y aura une présentation prochainement plus longue de La Note Invisible.
J'y mettrai les liens sur la page. Hein. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.